Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La crise sanitaire du Covid-19 a lancé les chercheurs du monde entier dans une course contre la montre pour trouver des réponses, cerner un nouveau virus, comprendre ses effets sur l'organisme et bien sûr trouver les moyens de s'en protéger et d'en guérir. En l'absence d'un traitement éprouvé à ce jour, certains protocoles ont suscité des polémiques à la mesure de l'immense espoir de voir une solution rapidement trouvée face à cette menace planétaire. Polémique amplifiée par d'autres paramètres étrangers au seul enjeu sanitaire. Paramètres du numérique, des réseaux sociaux, de l'information en temps réel, où l'urgence et l'outrance l'ont parfois emporté sur la rigueur et la modération. Pandémie médiatique, mais aussi politique. Contradiction, tremplin pour certains discours, pour certains égos, quitte à tordre le cou à quelques vérités scientifiques. Face à cette nouvelle maladie, il a fallu s'appuyer sur les ressources, toutes les ressources, pouvoir compter non seulement sur les traitements, mais surtout sur les femmes et les hommes actifs au sein de la communauté, soignants, travailleurs, voisins, pour faire passer les messages absolument essentiels de prévention pour accompagner. Pouvoir compter sur chacun, faire preuve d'humilité, éviter d'exploiter les peurs, renoncer aux remèdes miracles et ne négliger aucune piste. Ne pas opposer la connaissance scientifique et les savoirs traditionnels, à l'inverse, bâtir des ponts pour proposer une offre en phase avec les populations, sans négliger l'accès aux soins conventionnels. Et dans le contexte de pandémie, comment l'Organisation mondiale de la santé s'est-elle appuyée sur les ressources de cette médecine traditionnelle? C'est ce que nous vous proposons d'aborder aujourd'hui au cours de cette émission. L'OMS, dont vous serez en quelque sorte le porte-parole aujourd'hui, professeur Jean-Baptiste Nikiema, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef d'équipe sur les médicaments, les technologies, les infrastructures et les équipements de santé au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique à Brazzaville. L'IMRA, l'Institut de recherche appliquée de Madagascar, a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines avec le Covid Organics, mais ses activités ne se limitent pas à ce produit, loin de là. On vous retrouve à Madagascar. Docteur Charles-André Andjar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de cet institut. Et à Bamako, on vous retrouve. Professeur Rokia Sanogo, bonjour.
Bonjour.
Chef du département de médecine traditionnelle à l'Institut national de recherche en santé publique. Et nous donnerons également la parole à Jacques Florentin. Il est docteur en pharmacie, ethnopharmacologue, président de la Société française d'ethnopharmacologie à Metz, dans l'Est de la France.
Priorité santé sur RFI.
Alors, on ne va pas s'en cacher. On s'est parfois demandé ces derniers temps ce qui se passait entre l'OMS et une partie de l'opinion, notamment certains auditeurs, certains internautes très remontés contre l'organisation, avec même parfois des arguments agressifs. Ça va jusqu'à l'insulte, des prises de position, de la colère, suite aux réserves formulées par votre institution, professeur Jean-Baptiste Nikiema, à propos de ce produit, ce remède, le Covid Organics. Est-ce que vous, à l'OMS, professeur, vous avez ressenti cette vague de mécontentement ou pas vraiment?
Bien entendu, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, nous sommes à l'écoute de la population, des remarques qu'on peut nous faire. C'est comme ça que les choses avancent d'ailleurs. Et bien entendu également, nous travaillons avec le gouvernement malgache pour arriver à un protocole. Vous savez que le 20 mai dernier, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le président de la République malgache, se sont entretenus et ont convenu de développer ensemble un protocole qui va permettre de générer les données scientifiques et qui permettront d'assurer la qualité, l'efficacité et l'innocuité de ce traitement. Donc, c'est à cela que nous travaillons maintenant. Donc, les chemins sont maintenant aplanis et nous faisons maintenant place au travail scientifique.
Mais il a fallu quand même quelques semaines pour cela. Justement, il y avait le rappel de certaines règles de la part de votre institution, de la part de l'OMS. Et c'est très important de le dire, hein, l'OMS depuis longtemps travaille sur ces médecines traditionnelles. Il n'y a pas une coupure catégorique, contrairement à ce que certains voulaient bien laisser entendre. Parce que vous le soulignez, hein, à l'OMS, professeur Nikiema, il est essentiel de s'appuyer sur ces ressources de la médecine traditionnelle parce que beaucoup, beaucoup de monde sur la planète, tout simplement, n'a que cela comme médecine, n'a pas accès à la médecine conventionnelle.
Absolument. Et d'ailleurs, la réaction que nous avons vue dans les réseaux sociaux nous avait beaucoup surpris, parce que l'OMS est longtemps intervenue, comme vous l'avez dit, pour valoriser la médecine traditionnelle. Nous avons une stratégie régionale qui a été adoptée en 2000 et qui fixe les bases entre les États membres de l'organisation sur comment il faut valoriser la médecine traditionnelle. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça a été vraiment la clé qui a entraîné de nombreuses actions de l'OMS en faveur de la médecine traditionnelle. Et il y avait comme l'impression que tout cela était oublié d'un seul coup.
Vous avez l'impression que c'était une sorte de malentendu pour vous?
Absolument. Peut-être que c'est aussi lié à une faiblesse de la communication. C'est pour cette raison que depuis lors, l'OMS communique beaucoup sur ce qu'elle fait en faveur de la médecine traditionnelle pour qu'on parte sur des bases solides, parce que l'OMS reste l'organisation des États membres et l'OMS suit les recommandations et les décisions prises par les États membres en Assemblée générale au niveau de l'Assemblée mondiale de la santé.
Représentatif aussi de ce qui se passe au niveau des populations, mais on va y revenir. Peut-être un problème de communication, peut-être aussi un problème de moyens consentis pour la médecine traditionnelle. Vous avez très certainement suivi cette controverse, docteur Charles Andrianjar. Il faut dire que vous y étiez un petit peu pour quelque chose en tant que l'un des concepteurs de ce fameux remède, le Covid organique. C'est d'ailleurs, quand vous parlez de ce remède, vous insistez sur ce point, vous dites que c'est un remède traditionnel et non un médicament. C'est quoi la différence?
Bon, et en tout cas, tout d'abord, je tiens à remercier donc professeur qui a parlé tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord que l'OMS a déjà donc appuyé donc des programmes sur l'intégration de la médecine traditionnelle dans le système national de santé. Mmh. Et à Madagascar, l'OMS a travaillé beaucoup avec donc l'État malgache vers l'année du 2010 jusqu'à 2013, qui a en adoptant en fait donc la stratégie de l'OMS de 2014-2023, qui est toujours d'actualité. Mais en ce qui concerne donc le Covid organique, en fait, c'est que on était dans une situation d'urgence. Donc la question qui s'est posée tout le temps, c'est que est-ce qu'il y avait donc des validations scientifiques sur ce remède traditionnel amélioré. Tout d'abord, la définition de remède traditionnel amélioré, c'est que c'est un remède qui est issu en fait donc d'un usage traditionnel, mais l'usage est aussi rationnel parce qu'il y avait déjà des études scientifiques, des validations scientifiques qui ont été effectuées sur les plantes et qui composent en fait donc ce remède traditionnel amélioré. Ça a été déjà utilisé en Chine, l'artémisia. Il y a aussi des plantes qui composent donc ce remède traditionnel qui sont sur le marché déjà depuis 30 ans. Et ces remèdes traditionnels, ces plantes sont déjà sur le marché depuis 30 ans et il y a des validations scientifiques.
Docteur Andrianjar, pour bien expliquer, ça veut dire qu'on utilise des plantes qui sont par exemple déjà employées pour traiter les symptômes de la forme bénigne, pas grave du Covid-19. Ça veut dire quand on a un problème respiratoire, quand on a de la fièvre, quand on ne se sent pas bien, on va chercher dans la pharmacopée ce qui marche déjà, on le réunit dans un produit et c'est ce que l'on propose, c'est bien ça?
Ah ben, c'est ça, donc, le point de départ. Ça, c'est la rationalité, en fait, donc, de notre approche. C'est-à-dire que, on connaît déjà, les symptômes et on sait aussi comment on traite ces symptômes. Mais ensuite, déjà, par exemple, quand on parle de l'artémisia a été déjà démontré, en fait, donc, que son efficacité pour traiter du syndrome du SRAS en COVID, le COVID, le COVID-1, Et quand on regarde, en fait, donc, quand on compare la structure du COV1 et puis donc sa fille, si on peut dire comme ça, le COV2, qui est donc la base du COV19, c'est qu'il y a une certaine similarité génétiquement. Mm-hmm. Donc on se dit, on fait l'hypothèse, c'est une hypothèse scientifique en disant il y a peut-être une chance que l'Artemisia va donc aussi être efficace contre le virus de COV19.
Et encore une fois, on fait cela parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autres traitements, d'autres solutions. Professeur Rokia Sanogo, au Mali, est-ce que des ressources aussi de la médecine traditionnelle ont été employées dans le cadre de cette prise en charge de patients qui avaient été testés positifs au nouveau coronavirus ?
Merci, nous remercions cette occasion. Et là où nous sommes au Mali, le premier niveau d'implication des ressources de la médecine traditionnelle, c'est au niveau des praticiens de santé. Mmh. Et eux, ils ont été impliqués dans la riposte nationale. Parce que, étant les premiers recours des populations, on a commencé par les informer, les sensibiliser, pour qu'ensemble, ils puissent informer les populations, parce qu'ils vivent au sein de la communauté, les orienter vers les structures de prise en charge et dans une collaboration. Mais en plus de cela, aujourd'hui, depuis l'apparition de la pandémie COVID-19 au Mali, on a eu une grande mobilisation des praticiens de santé qui ont amené au niveau du département médecine traditionnelle des recettes. Et ces recettes sont en généralement à base de plantes. Et nous avons mis en place une équipe et nous avons fait les recherches sur les plantes proposées généralement pour la prise en charge symptomatique. Mmh. Et donc nous, au niveau du département aujourd'hui, nous avons à notre disposition un certain nombre de médicaments traditionnels améliorés sous forme de tisanes et nous proposons pour des vertus thérapeutiques. Pour la prise en charge symptomatique des signes associés au COVID-19, mais des médicaments qui ont déjà une utilisation dans d'autres maladies virales comme l'hépatite virale ou le VIH-Sida. Et également, nous proposons ces tisanes, ces MTA, médicaments traditionnels améliorés, pour également contrer la difficulté respiratoire, mais également renforcer le système immunitaire. Donc, le travail que nous avons fait déjà sur ces MTA donne les éléments de sécurité, d'efficacité et de qualité. Mm-hmm. Et c'est des médicaments de catégorie 2, c'est-à-dire tisane, forme d'utilisation traditionnelle, mais derrière avec ces données que le professeur disait, le professeur Jemeret, le professeur Nikema a rappelé la stratégie de l'OMS en 2000, OMS Afrique, qui demande de prendre en compte toutes les ressources et les remèdes qui ont fait la preuve de leur efficacité, innocuité et qualité pour accroître la couverture. Donc le département médecine traditionnelle est en train de travailler dans cette démarche et aujourd'hui, aussi bien certaines plantes proposées par les praticiens que des MTA sous forme de tisane. Nous avons aujourd'hui un dossier et nous venons de proposer pour la prise en charge dans un protocole que nous avons déposé hier au niveau du ministère en charge de la recherche et nous proposons qu'on puisse associer ces tisanes au traitement classique qu'on donne aux patients.
Donc, on comprend bien, il ne s'agit pas de remplacer, il s'agit vraiment d'associer. Puis surtout, ce point essentiel que vous avez mis en avant, professeur Rokia Sanogo, c'est aussi s'appuyer sur ces ressources humaines de la médecine traditionnelle qui sont de véritables relais dans la communauté pour orienter le cas échéant les patients vers des structures de santé. C'est absolument essentiel parce qu'on l'a bien compris, une grande partie des habitants de la planète s'appuie essentiellement sur cette médecine. On va vous retrouver tous les trois juste après ce reportage chez vous, docteur André Andrianjar à Madagascar.
RFI à Antananarive, 96 FM.
Et donc ce remède traditionnel dont on entend tellement parler sur le continent africain et au-delà, Covid Organics, décoction élaborée par l'Institut malgache de recherche appliquée, composée notamment d'Artemisia annua, plante issue de la pharmacopée chinoise, employée pour lutter notamment contre le paludisme, entre également dans sa composition deux autres plantes endémiques malgaches. Reportage de Laetitia Bezin-Antananarive.
Au bout d'une piste poussiéreuse, à une trentaine de kilomètres de la capitale, dans le village de Faharetan, l'entreprise Bionex a implanté son centre de recherche et y prépare les graines et boutures d'Artemisia. Le Covid organique s'est composé à 62% de cette plante, seul composant révélé par l'IMRA, l'Institut malgache de recherche appliquée. Dans une serre sous l'Oufra Sami Arimanan, ingénieur agronome inspecte avec attention ces plants.
Vous voyez ici, là, ça peut atteindre 2 mètres. C'est une plante herbacée très rustique. Elle est caractérisée par son odeur aromatique très forte et son goût amer.
L'entreprise fournit d'habitude de l'artémisinine, principe actif extrait de la plante, mais depuis la mise au point du Covid Organics, la donne a quelque peu changé.
On exporte de l'extrait pour les industries pharmaceutiques étrangères qui le transforment en médicaments pour soigner du malaria. Mais actuellement, ce n'est pas l'extrait qu'ils demandent, mais les feuilles pour en faire des tisanes. Après l'annonce de la découverte du remède à base de cette plante, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à planter de l'Artemisia. Ça devient très populaire.
Seule société à cultiver massivement de l'Artemisia dans le pays, Bionex produit 2500 tonnes de feuilles sèches par an et travaille avec 16 000 paysans. Charles Giblin, son directeur général.
On est en fin de cycle d'utilisation de la matière première de la campagne de l'année dernière et 100% cette matière est destinée à être utilisée localement dans le cadre du Covid Organics.
Une herbacée introduite il y a 45 ans par le professeur Albert Akoutratimamang, fondateur de l'IMRA. Dans la cour de l'Institut, le grand panneau de promotion du Covid Organics utilisé pour son lancement le 20 avril est encore là. Les travaux des chercheurs ont débuté dès l'apparition du coronavirus en Chine sur des végétaux connus de l'IMRA et qui pourraient avoir un effet sur les symptômes du Covid-19, explique le docteur Charles Ndianzar, son directeur général.
Nous avons déjà des données sur l'Artemisia en termes d'effets secondaires, de dose et d'efficacité. Et quand on regarde les compositions chimiques à l'intérieur de l'Artemisia, on remarque que cette plante possède des molécules anti-inflammatoires qui stimulent aussi le système immunitaire, antitussif, antiviral, et en plus de ça, des molécules qui font atténuer la fièvre. Nous avons rajouté 2 autres plantes de Madagascar pour amplifier en fait certaines activités de l'Artemisia.
2 plantes que l'IMRA ne souhaite pas dévoiler. Distribuées dans les villes touchées par le Covid-19, mais aussi vendues en pharmacie ou dans les supermarchés, sous forme de décoction en bouteille ou de sachets de tisane, le Covid organique s'est aussi utilisé pour soigner les malades du coronavirus qui le souhaitent. Erin Sourafatch, professeur de pharmacologie à l'université d'Antananarivo, expert en médecine traditionnelle malgache et chef de laboratoire à l'IMRA.
La fourchette de dosage curatif à base d'Artemisia est entre 10 à 20 grammes de feuilles préparé sous forme de tisane à feu doux par jour. C'est ce dosage-là qui a été appliqué dans le protocole officiel signé par le ministre de la Santé.
Si le remède a traversé les frontières et a été offert à une 20aine de pays en Afrique, il n'a pas encore reçu d'autorisation de mise sur le marché car sa composition exacte n'a pas été révélée. Le ministère de la Santé a délivré une autorisation de mise en vente temporaire dans le pays. Laetitia Bezin, Antananarivo, RFI.
Docteur Charles Ndianzar, on vous retrouve à Madagascar. Est-ce que vous allez nous proposer un scoop pour Priorité Santé? Ces 2 ingrédients secrets, est-ce que vous allez nous les dévoiler?
Non, pas encore pour le moment. Je pense qu'il y avait une sorte de traumatisme à Madagascar concernant la biopiraterie. Comme je disais toujours, c'est que c'est pas tous les industries pharmaceutiques qui exercent en fait donc la biopiraterie, mais il y en a d'autres qui sont vraiment qui aident Madagascar, dont je peux citer ici, si vous me le permettez, c'est par exemple le groupe Pierre Fabre par l'intermédiaire de la fondation Pierre Fabre, qui est donc le propriétaire majoritaire du groupe Pierre Fabre. La fondation Pierre Fabre travaille beaucoup à Madagascar et soutient vraiment et contribue financièrement et techniquement à la création d'une faculté de pharmacie à Madagascar et puis aussi dans des maladies orphelines telles que la drépanocytose. Mm-hmm. Donc on ne peut pas mettre toutes les industries pharmaceutiques dans un même panier.
Mais en tout cas, justement sur cette question de l'industrie pharmaceutique, il y a quand même un débat qui est assez intéressant. Je me retourne vers le professeur Jean-Baptiste Nkiema. On a entendu les deux noms au cours de ce reportage, Artemisia, artemisinine. Pourtant, on entend des voix qui disent ces accusations qui concernent l'industrie pharmaceutique, censées, c'est bien sûr la voix des détracteurs qui le disent. OMS, industrie pharmaceutique, travaille main dans la main et freine la diffusion de la médecine traditionnelle. Pourquoi cette accusation? Qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui vous accusent de cela?
C'est une accusation qui est un peu étrange parce que la médecine traditionnelle, bien sûr, est à l'origine de nombreux médicaments. Mmh. Et à travers la recherche et le développement, et ce qu'on a vu dans le reportage à Madagascar, est très caractéristique de ce qui se met en place pour valoriser une plante médicinale dans une chaîne et qui va permettre d'arriver à un produit pharmaceutique qui sera accessible à un plus grand nombre. Bien entendu, l'OMS est très regardante sur la transparence de tout ça, à qui bénéficie les prix des médicaments, les coûts, etc. Dans le passé, on n'était pas très regardant là-dessus. Mais depuis un certain temps, vous avez vu qu'à l'Assemblée mondiale de la santé, l'année dernière, il y a eu une résolution sur la transparence des prix. Et donc, c'est quelque chose qui est très important. On parle maintenant du juste prix. Pour que ceux qui sont détenteurs, par exemple, du savoir traditionnel ne soient pas dépossédés de leur savoir, au profit d'une industrie qui va développer des médicaments et tirer de grands bénéfices.
Donc, et déposer des brevets et même peut-être à terme, ce qui avait déjà été vu, un comble, interdire aux créateurs des produits, c'est-à-dire aux tradis, d'utiliser leurs propres produits. Je voudrais qu'on donne la parole au professeur Rokia Sanogo. Professeur, l'Artemisia annua, est-ce que c'est une plante que vous utilisez également dans la pharmacopée au Mali?
Voilà, merci. Et ce qui vient d'être dit par rapport à Artemisia, présentement, il y a un mouvement Artemisia qui est à travers le monde et également au Mali. Mm-hmm. Nous avons commencé à faire des essais de culture d'Artemisia dans les années 2008 au Mali. Mm-hmm. Et nous avons déjà mené des recherches, on a fait des thèses d'exercices sur Artemisia. Mais l'action que nous avons eu à entreprendre au Mali, c'est que le département médecine traditionnelle, en collaboration avec le MRTC, le Centre de formation et de recherche sur le paludisme, le fait professeur Ogobara Dungo, nous avons dit qu'il fallait s'intéresser à l'utilisation de l'artémisia dans la lutte contre le paludisme. Mmh. Et nous avons fait une démarche vers le Programme national de lutte contre le paludisme, pour dire qu'il faut qu'on mette en route une étude. Une étude qui va nous permettre de faire le contrôle des qualités des échantillons d'artémisia cultivés au Mali, ce que nous avons commencé, et également de faire la standardisation de la tisane. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous craignons, c'est l'automédication. Parce que ce mouvement artémisia encourage l'utilisation de la tisane, et l'OMS a dit, comme on ne connaît pas la concentration d'artémisinine dans la tisane et qu'il y a les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine subventionnées et que l'OMS dit qu'il préfère recommander les TTA. Donc nous, au Mali, on a dit notre souci, c'est que si l'artémisia doit être utilisée pour les vertus thérapeutiques qui ont été annoncées, c'est que ça soit fait dans un contexte contrôlé sur la base de protocoles validés.
Et c'est vraiment très important parce que ce qu'on entend, c'est que c'est bien travailler ensemble. Il y a les médicaments contre le palu, il peut y avoir l'artémisia, mais tout cela bien contrôlé avec des recommandations, avec des notices, pour ne pas qu'à terme, eh bien les médicaments, il y a une résistance à ces médicaments qui sont essentiel aujourd'hui pour sauver des vies et notamment la vie des enfants, la vie des plus jeunes, on va le voir. Ces ressources de la médecine traditionnelle, eh bien, c'est un patrimoine sans frontières.
Priorité santé sur RFI.
Et c'est l'une de vos passions, Jacques Florentin. Bonjour. Bonjour, Jacques Florentin.
Oui.
Vous n'êtes pas loin de nous, mais vous êtes avec nous. Bonjour, Jacques Florentin.
Voilà. Bonjour, Caroline.
Vous allez bien? Vous êtes... Oui, très bien. Vous êtes président de la Société française d'ethnopharmacologie. On parle donc de ces plantes, de ces produits qui ont été utilisés dans la lutte contre le Covid-19. Est-ce qu'on est venu vous demander à vous, le spécialiste justement de la phytothérapie, de ces traitements, est-ce qu'on est venu vous demander dans l'Est de la France quelles plantes pouvaient être efficaces contre le Covid-19?
Bien sûr, on s'intéresse à la question depuis les premiers jours, depuis le début mars, et on a regardé bien évidemment tout ce qui avait été publié dans la médecine chinoise à la suite du SRAS-1 dans les années 2003-2004. Et là, on s'est aperçu que les Chinois avaient utilisé pas mal de plantes, et on s'est intéressé à ces plantes-là. Et donc, on a plus actuellement un aspect préventif qu'un aspect curatif. Mais notre discipline s'intéresse à trois choses. D'abord, c'est recenser les savoirs traditionnels, ensuite les évaluer et enfin favoriser sa dispensation sous forme de médicaments traditionnels améliorés. Et c'est exactement ce que recommande l'OMS et c'est exactement ce que font nos trois interlocuteurs que nous avons là. Charles-Andriana, je ne connais pas, mais j'ai visité l'IMRA et c'est un institut remarquable en qualité de recherche. Le professeur Jean-Baptiste Nikiema, il est venu à Metz, on se connaît. Il est un des organisateurs des plus grands congrès africains de médecine traditionnelle avec 300 participants et dans lequel il pratique l'intégration de la médecine traditionnelle. Et puis Rokia Sanogo, là aussi c'est une collègue, elle enseigne à Metz dans notre formation d'ethnopharmacologie appliquée et elle représente aussi, je dirais, les leaders au niveau de l'Afrique du développement de l'étude des médecines traditionnelles et de l'intégration dans les systèmes de santé.
Donc là, vraiment, Jacques Florentin, j'ai envie de vous demander, beaucoup de bruit pour rien finalement, parce qu'il y a eu tout ce tollé, OMS, Covid organique, les uns contre les autres, et puis quand on met les gens autour de la table comme ce qu'on est en train de faire en ce moment, on entend qu'on dialogue, on entend qu'on est plutôt d'accord, et puis surtout qu'on n'a pas envie d'entendre parler de quelque chose, on entend parler de remèdes traditionnels, mais on n'a pas envie d'entendre parler de remèdes miracles.
Oui, alors ce n'est pas des remèdes miracles. Quand la science, en particulier la pharmacologie, étudie ces plantes venant des guérisseurs, on confirme dans 80% des cas l'activité thérapeutique de ces plantes et bien sûr on recherche son innocuité, sa non-toxicité. Donc ça c'est incontestable. Mais la polémique aujourd'hui vient un petit peu du fait qu'il y a eu un certain doute qui a été mené sur la manière dont s'expriment certaines personnes de l'OMS et puis les gens qui sont vraiment dans les médecines traditionnelles sur le terrain. Moi, il y a une chose qui m'a quand même interpellé, sans qu'on ait aucun élément, mais c'est que dans les années 76-78, il y a eu cette fameuse déclaration d'Alma-Ata de l'OMS qui avait remarqué que 80% des gens se soignent avec la médecine traditionnelle, mais à cette époque, il y avait 80% des États qui finançaient l'OMS, il y a 40 ans, et 20% qui étaient des apports financiers autres. Et quand j'ai regardé avec stupéfaction aujourd'hui, je me suis aperçu que les États financent 20% et les volontaires 80%. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, quand on a des financeurs qui apportent une telle contribution, avec des fondations qui ont un poids considérable, s'il ne peut pas y avoir parfois aussi des effets
des problèmes d'indépendance.
Désagréables. Voilà, exactement.
Des problèmes d'indépendance.
Quelque chose, voilà.
Vous parliez tout à l'heure justement des effets qu'on recherche chez les plantes et évidemment de l'absence de danger, ce qu'on appelle l'innocuité. Bien sûr, attention aux effets secondaires. On a un auditeur Facebook du Sénégal, El Hadji, qui écrit « En Afrique, nous avons beaucoup de plantes qui ont des vertus thérapeutiques. La cherté des produits pharmaceutiques, c'est ce que beaucoup de gens craignent. Donc, on va vers ces médicaments traditionnels, mais il y a un problème de dosage. Et d'ailleurs, l'usage abusif peut être à l'origine de problèmes de santé. » Professeur Rokia Sanogo, cet auditeur du Sénégal, cite notamment les problèmes pour les reins avec certains produits traditionnels. Pour beaucoup trop de gens, en fait, médecine naturelle égale plante égale sans danger. Et ce n'est pas vrai. Il y a des effets bénéfiques, mais il peut aussi y avoir des effets néfastes.
Oui, bon, merci à l'auditeur. Mais en fait, il y a des accusations sans preuve souvent sur la médecine traditionnelle. Et on parle de manque de doses, ce qui est faux. Aujourd'hui, nous savons que traditionnellement, il y a des doses. Les pincées, les doigtiers, les poignets peuvent être pesés pour avoir des quantités précises. La question de l'accusation sur la toxicité. Et la toxicité, souvent il y a des accusations sans études. Donc c'est pour cela que nous disons ces études d'innocuité, sur l'innocuité et l'efficacité vont nous permettre de savoir, parce que c'est le processus que nous faisons. Je dois rappeler que quand on prend des informations au niveau traditionnel, ces informations, nous rentrons dans les laboratoires et nous faisons des extractions selon les indications traditionnelles et nous venons vérifier d'abord l'innocuité. Et quand on vérifie l'innocuité, donc les études de toxicité vont nous permettre de connaître les doses, vont nous permettre de savoir est-ce que le produit a des effets sur les organes cibles, foie, rein, voilà, rate. Donc, c'est les études qui sont recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, qui a élaboré un certain nombre de documents. Et c'est si nous suivons ces protocoles, ça va nous permettre de valider, dire qu'il n'y a pas de toxicité sous aucun organe, que voilà les doses, s'il y a des doses toxiques, voilà les doses toxiques, et voilà les doses efficaces selon l'utilisation, et voilà les constituants chimiques qui sont dans ces préparations. Donc aujourd'hui, les médicaments traditionnels améliorés que nous avons au niveau du département médecine traditionnelle qui a été créé, le département en 1968, 10 ans avant Alma Atta, grâce au père fondateur de l'indépendance, où aujourd'hui nous avons des médicaments traditionnels améliorés qui ont des autorisations de mise sur le marché au niveau de la réglementation qui a été donnée par les structures de réglementation. Et là, nous avons opté pour les formes tisanes pour une question d'accessibilité économique. Mais moi, j'aime dire que quand vous prenez la tisane, on a des tisanes, quand vous prenez nos tisanes, nous disons qu'aujourd'hui, c'est des tisanes qui correspondent à des médicaments classiques. Et je profite pour vous dire que là où nous sommes aujourd'hui au niveau du Mali, l'Ordre des pharmaciens du Mali s'est approvisionné auprès du département médecine traditionnelle pour avec le sirop Balembo, qui est un de nos médicaments traditionnels améliorés, qui est un sirop antitoussif contre la toux sèche. Et l'Ordre des pharmaciens vient de s'approvisionner auprès du département médecine traditionnelle à ce Balembo, qui a une autorisation de mise sur le marché, qui est sur la liste des médicaments essentiels. Et l'Ordre des pharmaciens va fournir cela au niveau des centres de prise en charge.
Parce qu'en effet, l'OMS a validé une quarantaine de produits issus de cette médecine qu'on retrouve justement sur ces listes nationales des médicaments essentiels. Jacques Florentin, je me tourne vers vous. Forcément, on parle de médicaments, on parle de remèdes, on parle de normes, d'homologation. Mais est-ce que c'est compatible avec la nature même de cette médecine où il y a quand même toute une dimension holistique, du rituel, de la rencontre, du partage, de l'échange, de la transmission ? Est-ce qu'il n'y a pas finalement deux médecines traditionnelles ?
C'est évident que la médecine traditionnelle s'intègre dans des concepts et des croyances. Mais lorsque on fait la promotion de médicaments traditionnels améliorés, bien sûr, on a du compte de ces données traditionnelles, mais ce qui importe, ça va être la toxicité, la non-toxicité et l'efficacité. Mais de plus en plus, on s'oriente maintenant vers, je dirais, un traitement qui associe une thérapeutique moderne avec une thérapeutique traditionnelle. Mmh. Et là, il faut relire le rapport de l'OMS qui date de 2004. Il y a eu à Beijing un colloque de 3 jours pour faire le point sur le SRAS 1. Et l'idée était de voir les résultats cliniques obtenus avec un traitement conventionnel antiviral plus des extraits de plantes. Et ces conclusions sont très claires. Il y a une synergie importante dans les cas modérés. Il y a un encouragement à utiliser cette collaboration entre médecine traditionnelle et médecine moderne. Le rapport de l'OMS est édifiant de manière positive sur cet aspect-là. Il faut le relire. Il y a 196 pages.
Donc vous nous encouragez à la lecture. Professeur Nikema, il faut dire qu'aujourd'hui, en ce moment même, sur le Covid-19, il y a de nombreuses études à base de la pharmacopée, de la médecine traditionnelle chinoise sur le Covid-19. Il y a des études très sérieuses qui sont engagées. Et tout à l'heure, on parlait justement de l'étude qui se prépare sur le Covid organique suite à la rencontre des instances de l'OMS et du président malgache. Je me retourne vers vous, docteur Charles Andrianjar, j'ai réussi jusque-là, là je bute. Bien sûr, on ne va pas réduire le travail de votre institut. L'IMRA à ce Covid organique. Vous commercialisez d'autres remèdes améliorés. Pour traiter quoi, docteur, par exemple?
C'est-à-dire que nous avons donc des produits qui traitent différents domaines thérapeutiques, surtout donc les maladies courantes à Madagascar. Nous avons aussi donc des produits qui traitent qui accompagnent les patients qui sont atteints de diabète, qui atteignent de l'asthme, et puis aussi donc qui atteignent de calculs rénaux. Et nous avons déjà certains brevets déjà qui ont été déposés à l'international au niveau des produits qui permettent en fait de traiter des calculs rénaux. Alors, on l'appelle ici à Madagascar l'UDVAT, et puis UDVAT, ça veut dire tout simplement c'est un médicament contre les calculs. Et ce médicament est très utilisé donc ici à Madagascar, et la plupart des urologues utilisent en fait ce médicament. Et l'antidiabétique que nous avons, le bavéglucine, est utilisé par l'association des diabètes malgaches, donc l'ABATIA, et ça marche très bien. Et ce qui est intéressant, ça c'est une histoire que j'aimerais vous raconter, c'est que quand je suis arrivé à Libra, j'ai commencé à faire a été terminé le principe actif du bavéglucine. J'ai effectué des études cliniques donc en étudiant en comparant en fait donc l'effet du principe actif du bavéglucine avec donc la metformine, et malheureusement le principe actif ne fonctionnait pas. Par contre, l'extrait le bavéglucine fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Même le bavéglucine est utilisé en fait par le laboratoire Fénio en France. Ce qui veut dire que l'extrait de plante possède vraiment donc des vertus thérapeutiques qui sont inestimables. Quelquefois, on utilise en fait donc la participation des cocktails de molécules à l'intérieur qui ont des effets synergiques, comme disait le professeur Florental tout à l'heure.
Professeur Jean-Baptiste Niquiéma, j'aimerais qu'on revienne non pas à la controverse, parce que j'y tiens pas absolument, mais j'aimerais comprendre les choses. Comment se fait-il qu'on soit allé aussi loin dans l'opposition pour aujourd'hui avoir cette réconciliation, ces essais qui sont menés conjointement? C'est quoi? Vous disiez au début problème de communication. Qu'est-ce que vous pouvez faire à l'OMS pour être au plus proche des populations, pour mieux faire passer votre message?
Merci beaucoup. C'est extrêmement important, effectivement, que l'Organisation mondiale de la santé soit très proche des populations. À cet effet, nous avons mis en place un comité d'experts qui est composé d'experts venant de différents pays, des personnes qui travaillent au quotidien avec les praticiens, avec la population, pour guider l'OMS et les États membres dans l'approche la plus idoine possible pour le développement de la médecine traditionnelle contre le COVID-19. Donc ça va permettre d'avoir une surface, une interface de dialogue la plus large possible.
Professeur Niquiéma, le problème, c'est pas aussi peut-être que les politiques s'en mêlent un petit peu trop? Non pas que la médecine doit rester une affaire uniquement de médecins et scientifiques, hein, loin de là, mais est-ce que justement quand on met certains produits un petit peu en vedette, il n'y a pas justement ces risques d'engouement et de dérapage?
Oui, il y a ce risque que la communication ne soit pas maîtrisée à ce niveau-là, et c'est particulièrement important qu'on fasse confiance aux scientifiques, parce que les scientifiques savent comment les choses sont développées, à quel rythme et surtout quelle approche utiliser pour communiquer. Mais il faut reconnaître que l'intervention des politiques est très importante pour donner l'aura nécessaire, pour avoir les investissements nécessaires pour la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle a longtemps souffert de manque d'investissement. C'est pour cette raison que lorsque la COVID-19 est apparue, bon, ils n'ont pas pu réagir à temps parce que les investissements ne les ont pas permis de se développer comme il fallait.
Et également, professeur, excusez-moi de vous couper, mais il y a un certain nombre de scientifiques qui se sont contredits entre eux. Donc, on ne peut pas dire aussi écoutez les scientifiques qui vous donneront la voix quand parfois certains scientifiques, c'est ce qu'on a vu notamment en France, sont en train de s'écharper. Rokia Sanogo, il nous reste quelques petites minutes, toutes petites. Est-ce que vous trouvez qu'on a un petit peu trop entendu les politiques, peut-être pas assez les populations et certains médecins?
Voilà, bon, moi je crois que aujourd'hui, c'est le professeur Nitiema a dit, aujourd'hui, moi je pense qu'il est important de mettre en avant les institutions de recherche et les scientifiques. Mm-hmm. Parce que nous avons par exemple plus de 50 ans. Comme on a beaucoup de résultats qui méritent d'être valorisés pour trouver vite des solutions. Ce que moi je vais demander aux politiques, parce que quelque part je suis aussi politique, je veux une mobilisation des autorités sous-régionales. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, on a l'OAS qui est mobilisé. On a fait des pharmacopées. Rien même a fait des pharmacopées. Donc nous pensons aujourd'hui que les États, les autorités politiques et administratives voulaient appelons pour que la prise en compte de la médecine traditionnelle soit réelle, qu'ils investissent dans la recherche sur la pharmacopée. En ce jour anniversaire de l'Union africaine, moi je suis en train de dire, comme la médecine traditionnelle est notre culture, notre santé et notre avenir, moi j'aimerais faire l'unité de l'Afrique autour de la valorisation des ressources de la médecine traditionnelle, pour répondre, par exemple, à ce que l'OMS a dit dans la dernière Assemblée mondiale en 2019, qu'il faut prendre en compte les ressources de la médecine traditionnelle dans la collaboration entre les deux systèmes pour une couverture sanitaire universelle.
Et c'est le mot de la fin parce que c'est exactement ce que dit cet auditeur de Brazzaville. Il dit, synthèse, hein, la médecine traditionnelle et moderne doivent travailler en collaboration. Les deux partagent un même objectif, soigner les patients. On vous remercie infiniment, c'était trop court pour parler de ce vaste sujet. On y reviendra bien sûr prochainement dans Priorité Santé. Merci professeur Sanogo, un chef du département de médecine traditionnelle à l'INRSP de Bamako. À vous Charles-André Andjar, directeur général de l'IMRA de Madagascar. À vous professeur Jean-Baptiste Nikiema, chef d'équipe au bureau régional de l'OMS Afrique. Et à vous Jacques Florentin, président de la Société française d'ethnopharmacologie à Metz. Bien manger pour rester en pleine santé, on en parle tout de suite avec vous dans Priorité Santé. Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Aujourd'hui, on va parler d'une mode qui a cours notamment en Europe, la nourriture ou les aliments dits détox, ces aliments censés nettoyer les toxines dans notre corps. Alors pour commencer cette chronique, Stéphane, est-ce que vous pouvez nous dire s'il existe vraiment certains aliments qui ont cette propriété de nettoyer le corps ?
Alors déjà, c'est vrai que c'est une mode où pour se sentir mieux, pour éviter les excès alimentaires ou les fatigues répétées, on a de plus en plus de gens qui vont consommer soit certains aliments particuliers, soit des tisanes ou certains jus. On a vu beaucoup revenir le jus de citron par exemple, ou pratiquer des régimes vraiment spécifiques dont le but va être de nettoyer. Alors, il y a différentes choses, soit l'intestin, le foie, les reins, ou plus largement carrément de détoxifier l'ensemble de l'organisme. Alors, cette notion, elle est née de croyance. Pour être en bonne santé, il faut que le corps arrive à se débarrasser des toxines qu'on lui fait, qu'on lui impose par des excès, qu'il a besoin d'aide pour ça. Alors, cette croyance est présente traditionnellement dans beaucoup, beaucoup de sociétés. Et maintenant, depuis quelques années, elle a quand même été reprise par l'industrie agroalimentaire avec justement ce terme de produit ou régime détox qui veut dire en fait détoxifiant. Alors malheureusement, on sait aujourd'hui qu'aucun aliment seul à le pouvoir nettoyer notre corps des toxines. Ce serait magique si on avait un aliment qui nettoyait tout et qu'il n'y a pas de preuves scientifiques du fonctionnement et du bénéfice de ces régimes détox pour la santé. Et le deuxième gros problème, c'est que cette mode, elle n'aide pas non plus à promouvoir des modes de vie sains, puisqu'on arrive un peu à faire croire que on va par magie nettoyer l'ensemble du corps.
Alors, le corps qui réalise ce travail naturellement, Stéphane, de quelle manière ?
Alors, c'est la chose importante à bien rappeler, c'est que le corps, il est programmé, j'allais dire, pour faire ça.
C'est fait pour ça.
Voilà, c'est fait pour ça, naturellement. Alors, on a deux organes. Le premier, c'est le foie. Le foie, il a un rôle central. Alors, pour l'ensemble de ce qu'on appelle le métabolisme, il va les sucres, les glucides, les graisses, les lipides, il va fabriquer tout ça, aider à traiter tout ça. Il va synthétiser aussi un grand nombre de protéines qui vont être indispensables, comme par exemple les protéines de la coagulation, il produit la bile qui va aider la digestion des graisses. Il va aussi avoir un rôle lui-même directement antitoxique sur certains types de produits, il va détruire certaines toxines. Les médicaments qu'on ingère, c'est lui qui va les traiter et puis transformer aussi l'ammoniac en urée. Alors contrairement à beaucoup d'idées reçues, cet organe, s'il est en bonne santé, il ne stocke pas les toxines. Il va plutôt faire tout ce travail et aider après un deuxième organe qui va être les reins et qui va lui éliminer tout ceci. Les reins, justement, ont un rôle central dans l'évacuation à la fois des minéraux en excès, ça va être le sodium, le potassium et le phosphore pour garder les équilibres, mais aussi les déchets comme l'urée ou encore les acides. Et certains régimes détoxifiants peuvent avoir justement des effets négatifs en empêchant un peu, j'allais dire, ce fonctionnement normal. Et il faut bien penser que si on a un mode de vie sain, ces organes fonctionnent très bien et normalement on n'a pas besoin d'aller chercher autre chose.
Alors Stéphane, est-ce qu'on peut citer des risques spécifiques liés à ces régimes dits détox ?
Alors la première chose, c'est qu'en général, ces régimes, ils sont basés sur la suppression d'une famille d'aliments, ça va être peut-être les protéines à un moment, ça va être les graisses à un autre moment, ou alors des choses un peu plus de manger que de la soupe ou que des légumes. Et le risque premier, c'est de carencer, d'un risque de carence ou alors de supprimer des choses nécessaires. Alors, en général, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un sentiment de bien-être un jour ou deux jours, et puis après, on va retomber dans une fatigue qui va être due justement à ces carences. Donc, c'est vraiment la première problématique très importante. Et l'autre, c'est de penser, c'est ce que je disais au début de cette chronique, qu'en mangeant un aliment magique, on va pouvoir garder, j'allais dire, tout le reste du temps une alimentation déséquilibrée, un mode de vie qui est pas sain, et que par l'ingestion d'un aliment, on va nettoyer tout ça. Donc, ça a un effet contre-productif sur le mode de vie un peu global.
Puis, il y a des gens, ça peut conduire aussi à la dépression. Manger pendant un mois du brocoli, ça peut être très dur.
Oui, il y a ça aussi, ça stoppe un peu la diversité.
Alors, vos recommandations un peu plus sérieusement, recommandations pour éviter les risques pour l'organisme.
Alors, il y a deux temps. Il y a le temps un peu classique, j'allais dire, c'est-à-dire sur le long terme, d'avoir une alimentation équilibrée, comme on le dit toujours, donc de diversifier, d'intensifier la consommation de fruits et légumes pour arriver aux recommandations de 5 fruits et légumes par jour, d'assurer bien sûr un apport adéquat en micronutriments, les vitamines et les minéraux, et en protéines, mesurer l'apport en graisse, en sel et en sucre, comme toujours, et limiter la consommation d'alcool, puisque lui, l'alcool, par contre, va abîmer le foie et donc va empêcher le foie de marcher correctement. Alors, il faudra bien sûr, parce qu'on a parlé des reins tout à l'heure, s'hydrater correctement, à peu près 1,5 litre d'eau par jour, ce qui va permettre aux reins de parfaitement éliminer ce qu'il a éliminé. Et après, il y a la deuxième période, c'est la période des fêtes, où là, les gens se posent beaucoup de questions en disant « j'ai mal mangé, je vais avoir plein de toxines ». Là, il suffit de limiter la consommation de graisse, de sucre, de revenir à des fruits et des légumes en plus grande quantité, là aussi de bien s'hydrater et surtout de reprendre une activité physique qui va permettre, elle, de faire fonctionner la machine et d'éliminer tout ça.
Merci beaucoup pour ces conseils Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali, et à bientôt.
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est Toussaint Maquet, Ophélie Lassène, Didier Bleu et aujourd'hui avec Raphaël Lazizi. Demain, dans Priorité Santé, on parlera de l'endométriose. Comment reconnaître et prendre en charge, diagnostiquer cette maladie gynécologique qui concernerait près d'une femme sur 10. On se retrouve demain avec nos invités pour en parler. D'ici là, portez-vous bien et on se lave toujours très bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.